Charlotte, bienvenue à toutes et à tous dans Le Shaker, votre agenda culturel et social pour le Loir-et-Cher, Blois et Vendôme. Bonjour à tous et à toutes, salut Mathilde.
Salut Thomas.
Qui on reçoit aujourd'hui ?
On reçoit Jean-Marie Francard, président de la Banque Alimentaire du Loir-et-Cher, venu nous parler de la Grande Collecte Nationale 2025 qui aura lieu du 28 au 30 novembre.
On en parle avec lui dans quelques minutes avant une première salve d'événements. See how she's on flying, fish is swimming in the sky. See how she's on flying, fish is swimming in the sky. Allez, on commence cet agenda avec du théâtre à Amour et Piano. Dès ce soir et jusqu'à dimanche, vous avez la possibilité d'assister à la représentation de deux pièces courtes du célèbre metteur en scène Georges Feydeau au théâtre Nicolas Pesquine. Ce sera interprété par le théâtre de l'Épi. La première, Amour et Piano, suit un jeune provincial qui se rêve parisien. La deuxième pièce, on va faire Cocotte, met en scène Émilienne qui souhaite se venger de son mari qui la trompe. Ces deux pièces pleines d'humour et de quiproquo sont le divertissement parfait pour le week-end. Les trois représentations ont lieu à 19h30, donc vendredi, samedi et dimanche. Les tarifs sont compris entre 8 et 10 euros, mais c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
La compagnie du Double Jeu sera présente ce dimanche 16 novembre au Minotaure pour une représentation de leur dernier spectacle Mariage et Châtiment, d'après David Farao. Cette comédie met en scène Édouard qui, pour justifier son absence au mariage de son meilleur ami, invente le pire des mensonges. Va s'en suivre une cascade de situations plus improbables les unes que les autres qui mènera à sa chute. La représentation a lieu à 15h. Le billet d'entrée est à 8 euros mais est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.
On en parlera largement la semaine prochaine évidemment, mais c'est déjà BD Boom qui s'annonce et on en parle donc avec cette pièce en partenariat avec le festival de BD. La Halograin propose mardi et mercredi une performance qui vous invite à faire appel à votre imagination. Antichambre suit un jeune homme qui, en retrouvant une photo de son enfance, décide de se replonger dans les mondes fantastiques et imaginaires de son passé. Sur scène, les artistes offrent une expérience immersive en combinant théâtre, animation et musique. Les dessins et peintures sont créés en direct sur fond de musique live. Les représentations auront donc lieu à 19h mardi et à 20h mercredi. Les tarifs sont compris entre 8 et 24 euros, donc Antichambre à la Halograin dans le cadre de BD Boom.
Le troisième volume au Minotaure à Vendôme vous propose trois représentations du spectacle de marionnettes dans mon foutu zoo ce jeudi 20 et vendredi 21 novembre. Cette création artistique met en scène Didi, 15 ans, qui, accablé par le regard des autres, décide de s'échapper dans son monde intérieur. Entre marionnettes, dessins d'animation et voix radio, le spectacle explore la juste distance entre soi et les autres. Les représentations sont tout public et ont lieu à 14h30 sur les deux jours. Et une séance supplémentaire se tiendra le jeudi à 19h. Le prix des places est compris entre 15 et 20 euros.
Et dès ce lundi, vous pourrez vous initier à cet art puisque des ateliers de marionnettistes sont à destination des adolescents et adultes à l'habitat Jeune au cœur à Vendôme. Au fil de 8 séances animées par le comédien marionnettiste Brice Coupé et réparties sur la saison, les participants vont apprendre à manipuler des marionnettes et à développer leur sens de l'improvisation. L'activité prendra fin au mois d'avril lors d'un match d'improvisation sur la scène du Minotaure. L'objectif de cet atelier est de rendre accessible à l'art du spectacle vivant aux amateurs. Donc les 8 séances auront lieu un lundi par mois de 19h à 21h et sont au prix de 35 euros pour l'ensemble donc de cet atelier. La réservation se fait sur le site de l'Hectare de Vendôme.
Et côté cinéma, les lobbies s'organisent une soirée spéciale rencontre avec Pierre Mathiotte, le réalisateur du film Le Chant du Fleuve. Récompensé à l'international, ce film documentaire tourné en 4 ans est consacré à la Loire au fil des saisons et des événements climatiques. À travers cette fresque poétique, le réalisateur nous emmène en balade sur le plus long fleuve de France. La séance a lieu au lobby ce samedi à 16h.
Et puis on parle d'un concert caritatif, donc avant notre première pause musicale, donc en soutien aux écoles au Laos. C'est ce soir au Ben Blues Bar à Blois. Tout est parti d'une rencontre entre le propriétaire du bar et Cam, le fondateur de l'association AFAEL, dont l'objectif est de construire et soutenir des écoles dans les régions les plus démunies du Laos. À la suite des inondations survenues en septembre dernier, les écoles ont été endommagées. Alerté par la situation, Ben s'est donc mobilisé pour organiser cette soirée concert avec en tête d'affiche le duo Suzanne et Jaco. Le concert est à 21h30, le et l'intégralité des recettes du punch servi sur place sera reversée à l'association. A noter donc qu'une cagnotte en ligne a aussi été mise en ligne donc par le site de l'AFAEL pour se mettre dans l'ambiance. Et avant de recevoir notre invité, donc on s'écoute Suzanne et Jaco, On est un con. A tout de suite.
Ah, le gros chien, il avait mis 20 ans. à me le dire qu'on était bien, qu'il n'avait plus rien à redire, qu'on pourrait un jour se le dire, qu'on s'est aimé, oui, mais pour le plaisir, qu'on pourrait un jour se le dire, qu'on s'est aimé, oui, mais pour le plaisir. Je me suis mise à pleurer, pas des larmes, pas des gouttes. Je suis restée toute mouillée, ça ne laisse aucun doute. À faire de plus que de s'aimer par-dessus le temps, par-dessus le vent, que de s'aimer par-dessus le temps, par-dessus le vent. Des larmes, pas des gouttes. Je suis restée toute mouillée, ça ne laisse aucun doute. On s'est aimé par-dessus le temps, par-dessus le vent. On s'est aimé par-dessus le temps, par-dessus le vent. On pourrait un jour se le dire qu'on s'est aimé, oui, mais pour le plaisir.
Toujours un plaisir justement d'écouter Suzanne et Jaco, donc, qui se produiront pour la bonne cause, un concert caritatif ce soir au Ben Blues Bar. On enchaîne donc avec notre invitée Mathilde.
Exactement.
C'est aussi un peu caritatif, voilà, on est en lien avec la chanson juste avant.
Donc aujourd'hui on reçoit Jean-Marie Francard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Banque Alimentaire du Loir-et-Cher. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce que c'est, s'il vous plaît ?
Alors, déjà, préciser ce que sont les banques alimentaires.
Déjà, oui.
Donc, les banques alimentaires, c'est une... pourquoi le terme de banque ? C'est parce qu'à un moment donné, dans les années 84, quand ça a été créé, il y a eu un constat de besoin de gens dans le besoin alimentaire et aussi d'un gaspillage alimentaire important. Donc la démarche était de dire, ben voilà, on va essayer de trouver une solution pour faire le lien entre les excédents alimentaires qui remplissaient les poubelles et les besoins. C'est comme ça qu'ont été créées les banques alimentaires. Pour mémoire, c'est à la même époque qu'il y a eu la démarche de Resto du Cœur, de Coluche.
C'était à cette période-là, oui.
Donc la vocation des banques alimentaires à l'époque a été définie comme telle, à savoir récolter des dons pour les redistribuer aux associations. C'est-à-dire d'entrée de jeu, c'était une organisation déjà logistique d'approvisionnement, en fait, de trouver tout ce qu'il y avait comme disponibilité alimentaire pour pouvoir le redistribuer aux associations. Donc ça, les banques ont été créées, c'est une fédération. Aujourd'hui, la fédération compte 78 banques alimentaires réparties sur tout le territoire, dont la Banque alimentaire du Loir-et-Cher. Nous sommes, parmi les banques, nous sommes une petite banque. Donc pour resituer la Banque alimentaire de Blois, elle fonctionne aussi depuis les années 80 aussi. Nous sommes implantés rue André Boulle dans des locaux mis à disposition par la mairie. Aujourd'hui, nous sommes 32 bénévoles et deux salariés. Donc, et nous distribuons auprès de ce qu'on appelle association partenaire, association épicerie sociale et aussi mairie et CAS. Donc ça nous représente donc des associations connues aussi que nous aidons, à qui nous distribuons. On retrouve les associations du Secours catholique et la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge, oui.
Pour l'épicerie sociale, une épicerie sociale qui est connue sur Blois, qui est notre premier partenaire, c'est l'épicerie sociale de la passerelle,
bien sûr.
Donc comment on fonctionne ? Nous, notre vocation, notre mission, c'est de trouver des produits. Donc trouver des produits. Donc historiquement, il y a ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire tous les jours, on part avec des véhicules auprès des magasins de la grande distribution pour récolter les produits qui arrivent en fin de vie.
Ouais. Voilà. Aux dates de péremption, etc.
Donc ça, c'est un élément qui on reviendra dessus, qui bouge beaucoup. Sinon, on a des dotations de l'Europe, parce qu'on appelle FES, c'est l'Europe qui donne des financements, et France Agrémaire achète des produits, et là, on est livré sous forme de produits à redistribuer.
D'accord.
Et aussi, ce qu'on appelle le CNES, les dotations d'État, sont des produits qui sont complètement dédiés aux épiceries sociales. Après, il y a tout ce qui est dons industriels. Alors, ça peut être des dons locaux, mais ça peut être aussi des dons au niveau national qui sont redispatchés par la fédération. Parce qu'on a des quantités importantes. Je me souviens d'une dotation de 300 palettes de farine. Mm-hmm. Bon, aucune banque n'a pas absorbé ça, donc ouais, ça a été redistribué.
C'est redistribué aux départements voisins.
Après, on gère avec nos voisins ce qu'on appelle la Terrebanque. Il se peut qu'on ait trop de produits à Blois et trop de produits à Tours. Donc on fait des échanges entre nous. C'est toujours limité, bien sûr, par les frais logistiques, hein, parce qu'on ne peut pas non plus courir au bout de la France. Après, il y a des dons qui sont faits par des agriculteurs, ça c'est important, organisation agricole ou la région locale. Sur le local, ça peut être des producteurs locaux qui donnent. Maintenant, j'ai dit qu'on était fondé sur le don, hein, ça a été vrai un temps. Depuis 4-5 ans, en fin de compte, notre charte nous autorise à acheter des produits. Pourquoi ça ?
Qu'est-ce que ça change, ouais.
Alors, ça change de choses, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu d'année en année qu'il y avait un appauvrissement des dons, aussi bien en volume qu'en qualité. Mm-hmm. Par exemple, je prends l'exemple de ce qu'on appelle la ramasse. Depuis l'inflation alimentaire, ce qui a fait la grande distribution, d'abord, ils ont dit, bon, on va déjà essayer d'aider nos clients. Mm-hmm. Donc ils ont fait ce qu'ils appellent des coins promo, des corners promo, pour faire la promo des produits jusqu'au dernier moment. C'est autant de produits qui venaient à la banque alimentaire.
Et qui sont maintenant encore dans les magasins, un peu déstockés. Ouais. Voilà.
Donc ça, c'est un élément qui pour moi, c'est irréversible, parce que c'est une tendance qui est prise. Hein, les clients, les magasins ont pris l'habitude. Donc c'est vrai qu'on a des produits de plus en plus courts en date, et de moins en moins riches, c'est-à-dire les protéines, tout ce qui est protéines, viande, poisson, produits laitiers, ça manque à l'appel. Donc les achats, ça nous permet, nous, de compenser, surtout en valeur nutritionnelle. Le problème des achats, c'est de trouver les finances.
Puisque vous êtes aussi concerné par l'inflation, voilà. Vous les achetez au même endroit que les consommateurs.
Alors, c'est important de le dire, parce que les fonds européens, par exemple, s'ils donnent un million... on achète 1000 tonnes, j'ai un chiffre au hasard, 1000 tonnes, c'était vrai il y a 5 ans. Aujourd'hui, 1 million, c'est 750 tonnes. Donc, vous perdez en volume, hein, parce que les fonds n'augmentent pas, mais le résultat baisse. Donc, il y a une chose qui a été importante. Il y a 3 ans, à l'occasion d'une visite dans une banque alimentaire, c'était Mme Borne qui était ministre à l'époque, il y a une décision qui a été prise de lancer un programme qui s'appelait « Mieux manger pour tous », un programme triennal. Sur 23, 24, 25, on arrive à la troisième année. L'objectif, c'était de se fournir des produits de qualité auprès des agriculteurs locaux, si possible labellisés. Donc il y a eu deux démarches. Une démarche nationale, où les produits nous étaient envoyés. Le national faisait les achats, et les produits arrivaient chez nous via la logistique pour qu'on les distribue. Localement, nous, on a bénéficié d'une redescente de crédit de Mieux manger pour tous, ce qui nous a permis de travailler avec des producteurs locaux labellisés. C'est-à-dire qu'on achète chez les agriculteurs locaux des produits labels via une association qui a été créée, il y a plusieurs, l'association Parmentier, qui fait l'interface entre les associations et les producteurs locaux.
Qu'on a pu recevoir ici à RZF.
Donc ça, nous sommes à troisième année. Pour l'instant, on ne sait pas la suite qui sera donnée à ça, puisque les dotations nationales, déjà cette année, il y a eu déjà des restrictions. Et là, tant que les budgets ne sont pas votés, on n'a pas la visibilité sur ce qui va en courir l'année prochaine. Alors cette année, quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les dotations d'État étaient supprimées. Et après, il y a une mobilisation qui s'est faite. Par exemple, sur le Loir-et-Cher, il y a eu une collaboration entre le département et les services de l'État qui ont permis de maintenir une subvention exceptionnelle. On ne sait pas ce qui sera la prochaine. Il y a une démarche qui a été faite là-dessus. Donc tout ça pour rappeler les gens qui nous soutiennent, enfin les organismes qui nous soutiennent. Je viens de citer le conseil départemental qui nous donne des financements. La mairie de Blois nous met à disposition des locaux de qualité à titre gracieux. Après, on a les aides de la région. Ce qui concerne pour l'aide à l'emploi, parce qu'au niveau de la région, il y a une structure qui s'appelle Capasso, hein, qui aide à financer les emplois dans
les salariés. Voilà.
Et puis bien sûr, il y a les services de l'État qui, via la DEPSPP, qui nous subventionne. Par contre, cette année, nous ont prévenu, attention, danger. C'est pas forcément renouvelé.
C'est la menace qui plane sur l'intégralité des associations françaises. On pourrait dire ça, oui.
Alors après, nous, on est à l'affût de mécènes pour pouvoir acheter des produits ou du matériel.
Et donc, justement, là, vous parliez du projet de l'ancienne première ministre, Mme Borne, qui va prendre fin cette année.
Oui.
Est-ce que vous souhaiteriez quand même continuer le partenariat avec les agriculteurs locaux et peut-être trouver une autre façon de fonctionner, ou c'est quelque chose qui pourrait vraiment prendre fin ?
Alors, il y a une chose qui est importante dans le projet de Mieux manger pour tous, suite à l'intervention de Mme Borne. L'idée, c'est quand même d'aider en même temps, de combiner l'aide aux agriculteurs bio, locaux, en même temps que de faire une dotation alimentaire. Alors, ça nous impose, nous la règle qui est ici au Loir-et-Cher, c'est qu'on achète des produits bio, auprès de l'agriculture bio, parce qu'on a le financement. Après, si on n'a pas le financement, est-ce qu'on aura les moyens, ça c'est une autre question, d'acheter des produits bio?
Et ça va représenter une perte importante au niveau des donations que vous faites sur les associations, cette perte ?
Aujourd'hui, ces achats, ça représente à peu près 40 tonnes de produits, c'est-à-dire 10% un peu plus de 10% de nos approvisionnements.
La Banque alimentaire, ça travaille en partenariat avec des associations. Vous travaillez avec 25 associations sur le Loir-et-Cher. Comment est-ce que la répartition, vous la faites de façon équitable ?
Alors, chaque association donne un peu sa typologie de population de bénévoles. C'est-à-dire qu'on sait si ce sont des personnes seules, des familles avec des enfants, les enfants de quel âge. À partir de là, nous, on sait qu'on va, si une association a tant de parents et tant d'enfants, on va orienter, par exemple, les dotations de produits de petit-déjeuner ou des produits laitiers. On va plutôt forcer là-dessus.
Il y a un fléchage qui se fait, une répartition. Ouais,
alors, c'est assez compliqué. Donc, si on fait des mathématiques, on pourrait dire on fait une division. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il y a quand même des demandes spécifiques d'associations, et puis aussi, ça dépend de leur population, et de leur capacité à écouler les produits. Parce que souvent, les associations sont ouvertes une journée, et doivent écouler le jour même. Par contre, l'épicerie sociale, je prends l'exemple, eux, ils se fournissent tous les jours. Alors, eux, c'est vrai que c'était intéressant pour eux d'avoir des produits frais via Mieux manger pour tous, parce que là, vous avez des produits de qualité qui peuvent tenir dans le frigo la semaine et garder leur qualité organoleptique. Alors après, la question, c'est vrai que la question qu'on se pose, puisque nous, on fait partie de l'association Parmentier, c'est quel avenir dans le fonctionnement des achats auprès d'agriculteurs locaux.
Donc là, vous venez par exemple que l'épicerie sociale, elle venait se chercher des produits tous les jours. En tant que bénévole, la journée type, elle ressemble à quoi quand on travaille à la banque alimentaire?
Alors, il y a plusieurs activités à la banque alimentaire. Une activité du quotidien. L'activité du quotidien, c'est ce qu'on appelle la ramasse. C'est-à-dire qu'il y a un chauffeur qui part avec une autre personne, qui font le tour des magasins, puis qui prennent les produits qu'ont préparés les magasins. À réception, il faut recevoir les produits, les trier, vérifier leur qualité de conservation, les dates, la qualité de l'emballage. Et tout de suite derrière, il y a une autre équipe qui prend le relais pour préparer les commandes. Puisque vous avez bien compris que nous sommes en date courte, l'idée c'est de redistribuer tout de suite. C'est-à-dire une ramasse, le soir pratiquement, elle est repartie. Les associations ne viennent pas toutes le même jour, ça dépend de leur organisation.
Et donc du coup, si on parle un petit peu de votre parcours à vous, donc vous êtes président de la Banque alimentaire, comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler dans cet organisme?
Alors moi je suis à la retraite depuis 10 ans. Au début, comme beaucoup de retraités, j'ai fait un tas de choses diverses et variées, souvent de loisirs, on va dire, pour décompresser un peu la vie professionnelle. Et j'ai été sollicité au travers de mes rencontres d'amis qui m'ont dit « Tiens, est-ce que tu pourrais nous aider pour les collègues, etc. ?» Donc en 2018, c'est comme ça que je suis arrivé à la Banque alimentaire et pour organiser les collectes sur Romorantin et Salbris. Mmh. Et petit à petit, on m'a dit « Tiens, est-ce que tu pourrais aller au conseil d'administration ?» Et puis après, il y a un problème de succession à la présidence. Et puis on m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux être président ?» Je n'avais pas prévu ça. Hein. Mais bon, vous savez, c'est comme un entonnoir. On dit « Tu pourrais faire ci, moi. »
Et puis voilà,
on après, se retrouve. Après, le fruit tombe. Donc en 2021, j'ai été élu président comme ça. Alors c'est vrai que j'ai été aidé par mon parcours professionnel, parce que moi j'étais un cadre dans l'industrie agroalimentaire, donc toutes les données qualitatives, nutritionnelles, alimentaires, logistiques.
Vous aviez une expertise ou une connaissance.
Oui, ouais. C'était pour moi, c'était mon quotidien.
Parlons de l'événement quand même qui est fait que voilà, on vous invite notamment pour ça, mais
voilà,
pour plus général. Donc effectivement, la grande vitrine hein, de la banque alimentaire, c'est la récolte qui a lieu à la sortie des caisses, on pourrait dire dans les supermarchés. On voit les gilets fluo ou les gens avec les petits gilets qui demandent si on peut donner une boîte de conserve, un paquet de pâtes, etc. Donc combien de bénévoles mobilisés, comment s'organise ce grand week-end de collecte hein?
Alors effectivement, donc il y a deux types d'organisations. Il y a les magasins, on va collecter dans 60 magasins, donc aussi bien la région de Vendôme que de Romorantin, Salbris et Blois. Blois. Donc sur Blois, c'est vrai qu'on est en mesure de faire tous les magasins. Sur le département, ça représente mobilisation de 900 bénévoles.
C'est énorme.
Donc il y a les deux tiers que l'on gère en direct à partir de la Banque alimentaire de Blois. Via des référents magasins. Dans nos bénévoles, il y a des référents magasins qui constituent leurs équipes magasin par magasin. Il y a aussi, au niveau de la banque alimentaire, une organisation pour trier les produits et stocker, parce que ça aussi, c'est un travail qui ne se voit pas, mais c'est un travail énorme de tri. Sur des régions comme sur Vendôme, là, on délègue, notamment nous, le CIS de Vendôme nous aide beaucoup pour organiser les collectes dans sa région. Sur la région de Vendôme. Et il y a d'autres associations qui organisent des collectes aussi sur leur lieu d'implantation.
J'imagine que, alors, dans ces moments-là, moi, ça m'arrive ponctuellement de donner, voilà, effectivement, d'acheter un paquet de pâtes ou un paquet de farine ou autre pour la sortie des caisses. Comment on gère cet afflux massif, parce que ça n'a rien à voir avec la récolte que vous faites au quotidien. Donc là, il y a un vrai stock énorme qui arrive, alors qui n'est pas forcément en données, en denrées périssables à courte échelle, alors, malgré tout. Il doit y en avoir, mais j'imagine qu'il y a une répartition.
C'est que de l'épicerie sèche.
Ouais.
Déjà.
Que de l'épicerie sèche.
On n'a pas de problème d'urgence.
Ouais, ok, ça marche.
Donc, nous, on s'organise pour, dès le vendredi après-midi jusqu'au lundi matin, on fait un tri. Donc, on trie selon les familles de produits, en fait. Mm-hmm. Hein. pour stocker. Donc là, nos entrepôts sont prêts, on a dégagé de la place. Chaque année, ça représente environ 50 tonnes.
Ouais, j'imagine
sur, les 300 tonnes que l'on distribue, c'est 50 tonnes.
Ah oui, donc c'est, c'est une part non négligeable de vos dons. Ouais.
Ça, c'est notre fond de rayon, puisqu'on est capable, à partir de là, de lisser sur l'année, parce que ça aussi, on parlait d'équité de distribution, on ne distribue pas tout ce qu'on a. Ça, on l'explique aux associations, on essaye de maintenir un courant, si je puis dire,
un flux, ouais,
pour être capable de ne pas couper les vides du jour au lendemain. Donc ça aussi, c'est de la gestion. Après, donc, les associations, il y a des associations qui collectent pour nous. Donc ils peuvent garder une partie, ça dépend des associations, puis d'autres les ramènent sur Blois. Donc sur Blois, aujourd'hui, c'est toujours un peu stressant les dernières minutes, parce qu'on fait toujours appel, et j'en profite d'avoir l'antenne, pour faire appel à des collecteurs bénévoles. Donc ils peuvent nous contacter, soit à la Banque alimentaire directement, soit via la plateforme je veux aider.gouv.
Okay.
Donc on est très ouvert, on est prêt à recevoir toutes ces personnes.
J'imagine que la main d'œuvre est tout à fait bienvenue. Ouais.
Voilà. Parce qu'effectivement, on arrive à boucler des fois difficilement. On demande à des gens qui font deux créneaux d'en faire trois, d'en faire quatre. L'objectif, ça serait qu'une personne arrive à faire un créneau de trois heures dans un magasin.
Ça marche.
Donc ce sont des binômes ou des trinômes. Une personne qui aborde les clients des magasins et l'autre personne qui récolte les produits.
À la sortie des caisses.
Donc, soyez généreux avec nos gilets jaunes.
J'ai une petite question, parce que là, du coup, vous êtes en train d'expliquer quand même que cette grande collecte, elle est essentielle au fonctionnement. Est-ce que ça serait envisageable d'en organiser d'autres au cours de l'année ?
Alors, parfois, on peut faire des collectes de printemps. Ça se fait dans certaines banques. Pourquoi le printemps ? C'est pour faire le lien, parce que souvent, la collecte d'hiver, de maintien, ne permet pas d'avoir tous les produits jusqu'à la prochaine collecte. Le problème, c'est de trouver des bénévoles volontaires. Parce qu'on ne va pas non plus épuiser nos bénévoles, parce que souvent, ce sont souvent les mêmes. La question, c'est... Alors, on peut le faire, mais quand on le fait, c'est limité à quelques magasins. On est incapable de remobiliser...
De remobiliser pour cette grande collecte de novembre.
Par contre, avec certains magasins, des fois, la demande des magasins, on cible des magasins, on limite la collecte. Ou, comme on l'a fait une certaine année... On avait été sollicité pour les collectes d'hygiène féminine. C'était dédié spécialement
à ce sujet-là.
D'accord.
Est-ce que vous observez depuis votre présence sur l'association une hausse des bénéficiaires et toujours plus de demandes dues à l'inflation, aux crises économiques ?
Alors, c'est clair qu'on a eu... les associations nous ont fait remonter leurs besoins. Ils sont à plus 20, plus 30% de besoins sur 3-4 ans. Ce qui est nouveau quand même, c'est un peu l'enjeu qu'on s'est fixé dans l'aide alimentaire, c'est de maintenir un niveau de qualité. Il ne s'agit pas de fournir des pâtes et de la sauce, puisque n'oublions pas que l'aide alimentaire, c'est pour remettre les gens en selle et pour qu'ils reprennent confiance en eux. Donc l'objectif ultime, c'est de donner des produits de qualité valorisants pour les bénéficiaires finaux. Hein, on ne les nourrit pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est un travail et les achats nous le permettent, puisque là, on peut rééquilibrer le menu, si vous voulez.
On va s'arrêter là. On a déjà pas mal d'informations. Merci beaucoup, Jean-Marie, donc Francard, président de la Banque alimentaire. On rappelle donc que les chasubles, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, les chasubles et les gilets jaunes seront... seront donc déployés à la sortie des magasins donc sur l'ensemble du Loir-et-Cher, donc les week-ends du 28, 29 et 30 novembre.
Ben merci déjà.
Merci à vous d'être venus. On fait une pause musicale et on reprend la fin de cet agenda culturel.
Pour another. You are.
d'écouter Pour Another du groupe The Darts. Connu sur la scène internationale, c'est à la maison de Bégon que le quatuor 100% féminin se produira ce soir. Ce concert est organisé en partenariat avec l'association Roxette que l'on connaît très bien chez Studio Zef. Originaire de Phoenix, le groupe propose sur scène un mélange de rock garage et psychédélique qui promet un concert à leur effigie haut en couleur. Elles seront accompagnées en première partie par le groupe de rock The Vibrafingers. Le concert débute à 20h30 et le prix des places est compris entre 7 et 14 euros.
Et évidemment, on parlait de la Roxette. L'interview de la chanteuse des Darts est à écouter dans leur émission qui est diffusée le jeudi à 18h et en rediffusion le vendredi à 21h pour en savoir plus et se motiver pour le concert. On parle d'une brocante qui aura lieu à l'ALCV ce dimanche, donc en soutien à l'association Pas d'enfants à la rue 41 qu'on a eu aussi l'occasion de recevoir. On parlait de solidarité et de charité. On est toujours en plein dedans. L'entrée est gratuite et les tables de stand sont proposées à 4 euros. En parallèle de la brocante, une collecte de dons de produits pour la petite enfance est mise en place donc jusqu'au 28 novembre. Rendez-vous à l'ALCV toute cette journée de dimanche pour cette brocante solidaire.
Pour sa 20e édition, le Salon du Jeu débarque à la Fabrique Normand à Romorantin ce samedi 15 novembre. Sur l'ensemble de la journée de 14h à 20h, de nombreuses associations seront présentes afin de faire découvrir et essayer des jeux rétro et nouveaux. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. L'entrée est à 1 euro mais est gratuite pour les enfants de moins de 2 ans.
Rendez-vous à Saint-Gervais-la-Forêt à l'espace Jean-Claude Deray ce jeudi 20 novembre à 20h30. Donc ce sera une conférence sur la santé et les polluants environnementaux qui sera animée par Pascal Vaudin. L'objectif est de faire le point sur les substances chimiques utilisées dans les domaines pharmaceutiques, industriels et agricoles et qui ont un impact sur la santé. Les solutions et actions de prévention seront aussi abordées. Donc jeudi 20 à 20h30 à l'espace Jean-Claude Deray à Saint-Gervais.
On en parlait en début d'émission, mais l'association L'Hectare des territoires vendômois, en partenariat avec la médiathèque de Vendôme, ouvre ses portes ce samedi 15 novembre de 10h à midi pour un atelier d'art plastique en lien avec la programmation du spectacle Les Murmures des Songes le mercredi 26 novembre. Cet atelier vous invite à donner vie aux petits monstres qui peuplent votre imagination. La séance à destination des enfants de plus de 9 ans sera animée par Jessie Désolée, illustratrice et créatrice des monstres du spectacle. L'inscription se fait en ligne sur le site de L'Hectare et les tarifs sont compris entre 2 et 10 euros. A noter aussi que les participants bénéficieront d'un prix réduit pour la représentation du spectacle Les Murmures des Songes.
Ce week-end, un stage de Tai Chi Chuan est proposé à la Maison des Provinces à Blois, animé par une ancienne médaillée en compétition nationale et européenne. Dominique Robin partage dorénavant sa passion à travers des stages. Au cours donc de ces 2 jours, elle abordera la théorie et la pratique de cet art martial asiatique par le biais de plusieurs activités. 3 séances sont prévues sur l'ensemble du week-end, samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h et dimanche de 10h à 12h30. Côté tarif, la journée de samedi est au prix de 30 euros pour les 2 séances, les 2 demi-journées, et celle du dimanche est au prix de 20 euros. Un pass pour le week-end est disponible pour 40 euros. Il est aussi possible de pique-niquer sur place le samedi midi entre les 2 séances.
On continue avec les concerts caritatifs, puisqu'un apéro-concert est organisé à la salle des fêtes de Vineuil ce soir à 20h. C'est le duo décalé Grumpy O'Shit qui mêle mélodie irlandaise et guitare espagnole qui performera. Le prix de l'entrée est à 8 euros mais est gratuit pour les moins de 10 ans. Vous trouverez sur place une buvette et un stand de crêpes. Il est aussi possible de réserver une planche apéritif pour 8 euros au 06 67 50 48 63. La soirée est organisée donc en soutien à l'association France Lafora qui vient en aide aux enfants atteints de la maladie de Lafora, une maladie neurodégénérative très rare.
Allez, c'est bientôt la fin. Il nous reste 2 items. De mon côté, je vous rappelle que ce samedi à Blois, toute la journée, donc rendez-vous à la Halle aux Grains et sur son parvis pour la journée de l'engagement, donc le forum associatif. Vous avez le droit à la journée du sport, à la fête du sport début septembre, avec les associations sportives de Blois et de ses alentours. En novembre, c'est le rendez-vous, c'est pour les associations en tout genre, culturelles, artistiques, sociales. Donc rendez-vous sur le parvis et à la Halle aux Grains pour découvrir et pourquoi pas vous engager dans les différentes associations. Ce sera de 10h à 17h ce samedi.
Fini le Shaker en musique, il y a un festival inédit consacré à la musique électro qui a lieu aujourd'hui et demain à Orléans. Pour sa première édition, le festival Les Fulgurances électroniques organisé l'association Clair Obscur et Gâtinais Libre a vu les choses en grand, divisé en 3 actes. Infra, la soirée d'ouverture, Ultra, la journée multiculturelle et Gamma, le bouquet final. Ces 2 jours de festivités s'annoncent chargés en musique et ambiance. Le festival commence dès ce soir à 18h et continuera demain de 14h à 4h45 du matin. On précise quand même, voilà, c'est pas 16h. Les soirées Intra et Ultra auront lieu au 108 et le final Gamma à l'Astrolade. Le prix d'entrée pour chaque journée est fixé à 10 euros. Et pour se mettre dans l'ambiance, on écoute Be With Me de 25e heure, tête d'affiche du festival et qui performera la soirée Gamma.
L'intégralité du podcast et des événements est à retrouver donc sur la page du Shaker, quelque part dans l'après-midi.
Exactement.
Salut Mathilde, à la semaine prochaine.
Salut Thomas.